un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Les premières mentions d'une affaire de piqûre remontent à 1819. À Paris, ce sont près de 400 femmes et quelques hommes qui déclarent avoir subi des piqûres avec un poinçon, une forte aiguille ou un instrument acéré. Les récits se répandent dans de nombreuses villes françaises, mais la police échoue à trouver l'atroce coupable de cette étrange épidémie. Il faut attendre un siècle pour qu'en 1922, Paris connaisse, si on peut dire, sa piqûre de rappel. Cette fois, ce sont des femmes dans les grands magasins, en train de faire des achats, qui rapportent avoir été piquées avec la rapidité de l'abeille ou de la guêpe, explique l'œuvre du 2 décembre. La presse se passionne pour ces agressions et rappelle à cette occasion un autre précédent à Lorient, datant de 1918, où une offensive de piqueurs défraya également la chronique. À chaque fois, les motivations des piqueurs restent confuses et les affaires classées. Mais ces étranges épidémies traversent les siècles. Elles réapparaissent par exemple en Chine en 2009, avec une série de mystérieuses agressions à la seringue dans le Xinjiang, 500 d'après les autorités. Sans preuve réelle, le gouvernement finit tout de même par parler d'un complot séparatiste destiné à semer la terreur et condamne plusieurs Ouïghours à de longues peines de prison. Et puis les piqûres sont réapparues en France en 2022 après un détour en Angleterre. On essaie, tout de suite dans les pieds sur terre, de comprendre ce qu'elles racontent, ce qui s'est passé au juste, qui sont les victimes et les coupables, réels ou supposés. Un récit de Karine Lelouette.
We've heard from a number of young women in Scotland, Manchester, Cardiff and Liverpool who claim they've been spiked by injection.
Nous sommes au Royaume-Uni, à l'automne 2021, peu de temps après la rentrée universitaire. Des jeunes filles de Manchester, de Cardiff, de Glasgow font des malaises dans des bars ou des boîtes de nuit et désignent pour responsable un petit trou entouré d'un bleu sur leurs mains ou leurs bras. C'est à ce moment-là que j'entends parler pour la première fois des piqûres sauvages. Et puis, très vite, l'épidémie atteint le continent. Elle touche la Belgique, les Pays-Bas et la France à partir du printemps et fait les gros titres des journaux d'information.
Une mystérieuse piqûre suivie d'une sensation de malaise, de nausée. Ces scènes inexpliquées se multiplient ces dernières semaines en boîte de nuit. D'abord à Nantes, puis Grenoble. Ce matin, on apprend qu'une dizaine de jeunes ont aussi porté plainte à Béziers.
Mais fin septembre 2022, le ministère de l'Intérieur déclare que 2100 plaintes ont été déposées en France. Ça fait 7 mois que l'épidémie sévit. L'automne s'installe, puis l'hiver. On recense de moins en moins de cas de piqûres. Et puis plus du tout. La page semble tourner. Mais en mars dernier, je tombe sur une nouvelle affaire.
Je m'appelle Lou, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en école de journalisme.
Des nouveaux cas de piqûres sont signalés à Lille, lors d'une soirée organisée après un tournoi de foot entre étudiants d'école de journalisme. Nous sommes le 18 mars. Ce soir-là, un millier d'étudiants venus de toute la France se retrouvent dans une boîte de nuit privatisée pour l'occasion.
Alors je pense que c'était aux alentours d'environ entre minuit et 1h du matin, je dirais. Je suis au bar avec une amie. On est deux à ce moment-là, ce qui a été la seule fois de la soirée, parce que généralement on essaye de s'arranger avec mes amis pour être au minimum 3 ou 4. Enfin, on sait que c'est dangereux en fait d'être une femme et d'être dans un bar ou d'être dans une boîte de nuit toute seule. Mais là, à ce moment-là, on est deux, je sais plus pourquoi. Mon ami a commandé un verre d'alcool. Moi, je l'attends, on discute tranquillement. Et à ce moment-là, il y a un homme qui arrive au bar, qui me bouscule. Et moi, je le fixe avec des gros yeux, l'air de... Enfin, j'attendais en fait qu'il s'excuse de m'avoir bousculé violemment comme ça, enfin, sans aucune raison. Et il y a un moment où je décide d'arrêter de le fixer et de revenir, enfin, de continuer ma discussion avec mon ami. Il s'approche de moi, il me saisit par le bras et il me chuchote quelque chose à l'oreille. J'ai pas entendu ce qu'il m'a dit, je sais pas, parce que la musique était trop forte. Et il s'est tout de suite réaccoudé au bar, et il ne m'a pas regardé. Sur le moment, je me suis pas plus inquiétée que ça, puis j'ai continué, mon ami a reçu son verre, on est parti, et on est reparti danser, et j'ai plus revu cet homme. Donc je continue ma soirée tranquillement, et puis il y a un moment où je sens que je commence à avoir des vertiges, je me sens un peu désinhibée. En fait, c'est comme si j'étais en état d'ivresse. Alors que j'ai pas bu un seul verre d'alcool. J'étais hyper sociable, j'avais envie de danser, j'avais envie de faire la fête. Donc la suite, 4h du matin, c'est la sortie de la boîte de nuit. La boîte de nuit ferme, on rentre dans le bus pour rentrer chez nous. Et là, il se passe 10 heures de bus. Et pendant ces 10 heures de bus, je dors. Mais je dors dans on va dire, comme un mini-coma. Mais bon, là, on peut se dire qu'avec la fatigue, c'est bien normal que je dorme. Mais même ça, c'était quand même très bizarre parce que je dormais très, 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 très profondément. On arrive 10 heures plus tard chez nous et je suis encore dans un état complètement second. Je prends une douche, je vois une trace sur mon bras avec un bleu autour et je me fais la réflexion que je trouve quand même ça bizarre, mais enfin je passe très vite à autre chose. Je pars me coucher, il est 15 heures quand je pars me coucher et je me réveille le lendemain à 7 heures du matin. Je suis complètement perdue et là je regarde mon téléphone et je vois sur la conversation WhatsApp de mon école qu'il y a un message de Lille qui vient d'être transféré, un message qui dit qu'il y a une première suspicion de drogue. Ils énumèrent les symptômes qu'a eu la personne et ils demandent de reporter si jamais on a eu des symptômes similaires. Et je me souviens que je me lève d'embon dans mon lit, je pars dans la salle de bain, j'allume la lumière et je regarde mon bras. Et là, je vois distinctement la trace de piqûre. Je suis obligée de m'asseoir parce que je sens que le monde est en train de tourner autour de moi et que, enfin, je me sens partir. Et je décide finalement d'aller à la pharmacie pour avoir un avis médical. Et c'est la pharmacienne qui m'aiguille ensuite vers l'infirmière de mon école, infirmière qui va m'aiguiller ensuite aux urgences.
Entre-temps, deux amis de Lou, qui ont ressenti des symptômes similaires, la rejoignent.
Donc on est lundi, il est midi, on arrive aux urgences. On a été prises une par une par la médecin, qui nous a donc fait des tests. On a fait des tests urinaires, moi j'ai fait un test de prise de sang. Et cette médecin nous a aussi fait un examen clinique pour voir si justement on n'avait pas de traces de piqûres. Je suis la première à passer. Et je me sens profondément incomprise. Elle décrédibilise tout ce que je dis, me dit que ce que j'ai, elle voit pas pourquoi ça serait une trace de piqûre, parce que c'est super difficile de le faire à cet endroit-là en intraveineuse. Elle me dit que, elle nous dit à toutes que c'est potentiellement une intoxication alimentaire, alors qu'on n'a pas du tout mangé les mêmes choses.
Quatre autres étudiantes rejoignent la petite bande. Elles sont sept désormais aux urgences. Seul Lou a une trace de piqûre, deux autres ont le bras gonflé.
On ressort toutes les quatre à 18h. Les trois autres étaient encore en cours d'examen parce qu'elles sont venues bien plus tard que nous. Du coup, on est sorties à quatre avec nos résultats négatifs que nous a donné la médecin. Sachant que quand elle nous a remis collectivement tous les résultats et nous a fait un petit speech de fin en nous disant que ces résultats, bien qu'ils soient négatifs, ça ne prouvait pas qu'on n'avait pas été drogué, ça prouvait que le corps avait éliminé le produit. Alors, ils ont cherché cannabinoïdes, opiacés, cocaïnaïques, amphétamines, méthamphétamines et méthadone. Et tout est revenu négatif.
Des substances psychoactives qui auraient pu prouver une soumission chimique. En clair, l'administration d'une drogue à l'insu des jeunes étudiantes.
On décide toutes les quatre d'aller porter plainte le lendemain. Et donc du coup, moi je suis écoutée par un monsieur qui prend les choses au sérieux. Ça dure très longtemps, peut-être une heure. Il prend mon certificat d'examen médical et les résultats des analyses urinaires que j'avais apportées. Et il prend tout ça, il constitue un dossier et il me fait signer la plainte contre X. Et puis après, c'est tout. Je n'ai pas eu de nouvelles du commissariat. Toutes les nouvelles que j'ai eues, c'est par les médias. Donc je sais qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte. Je sais que toutes les plaintes ont été remontées au parquet de Lille. Il y a beaucoup de victimes. Je pourrais pas dire le chiffre, honnêtement, je m'en souviens pas, mais c'est quand même assez conséquent. Et le fait qu'il y ait un portrait robot qui a été dressé, ça me donne de l'espoir qu'il y ait une enquête, enfin qu'il y ait un résultat à cette enquête. Et qu'elle soit pas classée sans suite. J'ai de l'espoir. Après, je ne sais pas.
Lou suppose que l'homme qui l'a approché au bar est peut-être celui qui l'a piqué, si elle l'a été. Mais dans la majorité des affaires, il n'y a pas de suspect du tout. Et pas de motif d'agression évident. Ni vol de portefeuille, de téléphone, ni tentative d'agression sexuelle. Pour comprendre, Peut-être faut-il que je remonte le fil des affaires dans lesquelles il y a eu des interpellations. J'épluche la presse régionale et je repère une dizaine d'arrestations pour suspicion de piqûre. Deux jeunes frères arrêtés à la feria de Nîmes, un homme interpellé lors de la fête de la musique à Nancy, un autre placé en garde à vue après le malaise d'une femme dans un bus en région parisienne. Mais dans la plupart des cas, la police n'a pas pu prouver qu'ils avaient piqué. Alors ils ont été vite remis en liberté. À quelques exceptions près. Dans cette poignée d'affaires-là, les piqueurs supposés ont passé du temps derrière les barreaux. C'est le cas d'un homme interpellé en juin 2022 dans une boîte de nuit de Sifour-les-Plages, à une trentaine de kilomètres de Toulon. L'homme ne veut pas répondre au micro. Alors j'interviewe son avocate au téléphone.
Donc je suis Christelle Leroy, je suis avocate et j'exerce au barreau de Toulon.
C'est à l'Eden Bar, un établissement de nuit face à la plage, que la scène a eu lieu. Un bar dans lequel ce Turc d'une trentaine d'années avait ses habitudes. Ce soir-là, vers 1h du matin, une jeune femme de 25 ans a la sensation d'être piquée et fait un malaise. Elle est amenée à l'hôpital. Sur les vidéos des caméras de surveillance montrées par la police, elle reconnaît le client de Christelle Leroy.
Ce qu'on sait, c'est que la victime l'avait identifié, en tout cas elle l'avait vu qu'il était autour d'elle, ou en tout cas à proximité d'elle. Donc on va dire que c'est assez faible effectivement pour procéder à une interpellation, mais c'est ce qui aujourd'hui fait que la procédure est en cours.
L'interpellation a lieu quelques jours plus tard. Ce soir-là, l'homme est revenu boire un verre à l'Eden Bar. Il est accueilli par la police.
Il est persuadé que, en clamant son innocence et lorsqu'on va prendre connaissance des éléments du dossier, il va vite être lâché. Donc, dans un premier temps, bien qu'il soit choqué par l'interpellation, il est quand même assez serein. Et ensuite, ça va très vite parce qu'on fait une perquisition à son domicile et il se trouve que, mon client est marié avec une infirmière et qu'on retrouve à son domicile des seringues et des médicaments qui seraient susceptibles d'être injectés. Donc, on cherche pas plus loin. On imagine qu'on a les éléments du dossier, qu'on a les preuves suffisantes et tout s'emballe. On saisit un juge d'instruction. On le met en examen et on l'incarcère sur Draguignan.
Il continue de clamer son innocence. Les semaines passent, bientôt les mois.
C'est vrai qu'il ne comprenait pas que la procédure puisse prendre autant de temps parce qu'on a eu évidemment des analyses qui ont été réclamées, qui ont pris de nombreux mois. On a des laboratoires qui sont débordés, tout simplement. Et donc aujourd'hui, il a ce qu'on appelle, et on lui a octroyé le statut de témoin assisté. Et il n'est plus incarcéré, mais ça a pris un peu plus de 4 mois avant de pouvoir retrouver la liberté.
Le trentenaire a pu retrouver son travail au terme de son incarcération, et un titre de séjour, dont le renouvellement avait été suspendu. Mais la page n'est pas tournée.
En définitive, aujourd'hui, sa vie se résume à aller travailler, et il rentre chez lui, il ne sort plus, il ne voit plus ses amis, parce qu'il s'est dit que le simple fait d'être allé s'amuser ce soir-là l'a conduit en prison, et il n'est toujours pas mis hors de cause. Les prochaines analyses, les résultats sont attendus pour le mois d'avril, donc on n'aura rien avant. Après, donc on est sur encore plusieurs mois avant de s'orienter vers un non-lieu.
Christelle Leroy et son client sont malgré tout confiants. Dans aucune affaire en France ou ailleurs, les analyses n'ont montré la présence d'un quelconque produit injecté. Pour l'avocate, c'est le contexte qui a pesé fortement dans cette affaire. Au moment où l'homme de Sifour est mis en examen, on est au cœur de l'été. Et les médias continuent de recenser un à un les cas. Alors la peur suit son chemin, avec son lot de réactions démesurées et de violence.
Ça vous dit quelque chose, une histoire de piqûre ici à Versailles ?
Pas du tout.
Ok, bon, c'est pas grave, je pensais que vous étiez du
village.
Quelqu'un
est courant, une histoire de piqûre à Versailles ?
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je cherche des gens qui ont entendu parler d'une histoire de piqûre l'été dernier à Versailles.
C'était pour la fête, ouais, mais là on a un entraînement de nous.
Je suis à Versailles, dans l'Aude. Un petit village à une quinzaine de minutes de Carcassonne. Une commune encore secouée par une drôle d'histoire de piqûre. On est samedi matin, un monsieur sort de la boucherie du village.
Ça vous dit quelque chose, cette histoire, à vous ?
De quoi, c'est...
L'histoire des piqûres à la fête du village.
Non, c'est pas les... je suis pas d'ici, moi. Hein.
Vous n'êtes pas d'ici ?
Non.
Et vous en avez entendu parler, quand même ?
Oui.
Ils se sont emballés un peu.
Et vous, on vous a raconté quoi sur cette histoire, juste ?
Oh, moi, on m'a rien raconté. Je m'en donne la madame, vous savez. Ouais. Je sais rien, moi.
Ce n'est pas le premier à fuir devant les questions. Il faut dire que l'histoire est plutôt délicate.
Le peu qu'on a entendu parler, c'est que... À ce qui paraît, il y aurait eu des piqûres.
Mais est-ce que c'est vrai ou pas, maintenant, tout le monde se pose la question.
Nous, on n'y était pas quand ça s'est fait.
Mais que s'est-il passé ce soir-là à la fête du village de Verzeil? Tout le monde en a entendu parler, mais personne apparemment n'y était.
Et la bagarre, qui est-ce?
Non plus, on n'était pas là.
On n'était pas là, là. Nous, on l'a vu par Internet.
Et ça vous a fait bizarre ou...
Ah oui.
Bah, on se demande à notre époque-ci comment dans un petit village comme ça peut arriver.
Non, et puis la violence, cette violence, quoi. Non, une violence comme ça, non. Ça s'explique pas, même. Ça relève vraiment d'un point d'interrogation.
Et puis finalement, je croise un couple à quelques pas de la mairie. Eux, ils étaient bien présents ce soir-là.
Mais c'était la fête du village au mois de juillet, là, fin juillet.
Il y avait une ambiance pas possible avec le DJ qui est super. Et puis, il y a des personnes qui ont dit « Oh, attention, il y a des jeunes qui ont été piqués. Ils ont reçu des piqûres. » Et alors donc, le DJ a dit « Attention, il y a des piqûres, donc il faut faire attention. » Voilà.
Et puis aux alentours, je ne sais plus à quelle heure, aux alentours de 24 heures, hein, le dimanche soir, on était un groupe d'amis. Et puis à un moment, à 10-15 mètres de nous, est tombé un jeune garçon, là. Voilà. Il est tombé d'un coup, là. Il marchait, puis il est tombé d'un coup, là.
Une infirmière s'est rapprochée, qui l'a mis en position fatale, voilà, donc fétale, et donc il en a attendu les pompiers.
Le jeune qui a fait un malaise ce soir-là s'appelle Melvin, 16 ans à l'époque. Je retrouve son père, Gérard Bassetto, au stade de rugby, juste avant le derby du week-end.
Et le comité des fêtes m'a appelé à 2h du matin, en disant que mon fils avait fait un malaise à la fête de Verzeil et qu'il fallait que je vienne rapidement. Il y avait des ambulances, des flics partout. Et mon fils était dans l'ambulance. Voilà, bon. Je me suis occupé de mon fils. Et c'est là qu'on m'a dit qu'apparemment, il se serait fait piquer par une piqûre sauvage. Voilà.
Son fils lui raconte alors ce qu'il a vécu.
Les faits se sont produits à minuit et demi, je pense. Alors à ce moment-là, il était au bar, il avait commandé un mojito, hein, et puis il est allé rejoindre ses amis, et 5 minutes après, il a senti une douleur au bras, et il s'est effondré. Et le pire, c'est qu'à l'hôpital, il y avait vraiment une espèce de rond, là où il a été piqué. Voilà.
Sur le compte-rendu hospitalier que j'ai pu consulter, le médecin de garde a noté la présence d'une trace d'ecchymose sur la face externe du bras droit, sans plus de précision.
À l'hôpital, ils ont bien vu que c'était un pic, mais voilà. Mais après, ils m'ont dit une piqûre. Est-ce que c'est une piqûre sauvage ou est-ce que voilà. Alors même ils m'ont dit, mais vous êtes sûr que c'est pas un truc de naissance? Non, j'ai dit, attendez, vous foutez de moi, non quoi. Voilà. C'est pour ça que voilà. J'ai dit ça, il ne l'avait pas, mon fils. Voilà. Le docteur m'a dit voilà, bon, il y en a plein en ce moment. Voilà, on peut rien faire. Faut que ça monte à Paris. Voilà, il faut une étude, il faut ci, il faut là. Voilà, ça n'est resté là et après, voilà, j'ai plus su l'enquête, voilà, ça a été fini.
Les analyses sanguines de Melvin ne donnent pas plus d'indices. Tout est négatif.
Je pense que c'était trop tard, on ne pouvait pas le voir, voilà. Parce qu'apparemment, ces substances-là, on ne les voit pas dans la prise de sang, voilà. Voilà ce qu'on m'a dit.
Quelles substances?
Les liquides qu'ils envoient, quand les piqûres sauvages, apparemment, voilà, on ne les voit pas. Mais comme on ne sait pas ce que c'est, voilà, alors c'est pour ça. Voilà. Je pense que c'était des piqûres d'insuline qui tournaient. Les gendarmes s'étaient un petit peu renseignés et en ce moment, apparemment, voilà ce qu'ils m'ont dit, c'était peut-être ça ou pas ça. Hein, voilà. Je peux pas dire que c'est vraiment ça. Hein. Mais bon, on m'a aiguillé un petit peu là-dessus. Voilà. Et bon, comme moi je suis diabétique, je pense que voilà, vous savez, quand s'ils ont mis 20 ou 30 doses d'insuline rapide, vous tombez vite dans le coma. Et moi, si c'est ça, hein, c'est toujours pareil. C'est pour moi, c'est un attentat.
Son père en est persuadé. Melvin a bien été piqué. Mais par qui?
Mon fils, il n'en sait rien. On ne peut pas dire, voilà, il a eu beaucoup de personnes autour. Et vous savez, il y avait énormément de monde. On ne peut pas accuser qui sait que, voilà. Bon, après, il s'est rappelé que il y avait deux personnes de race noire qui lui avaient dit, c'est que le commencement. Et il a senti une main sur son épaule. Et voilà ce qu'il se rappelle.
Mais à la fête, ce soir-là, il y avait aussi Nelson, avec un petit groupe d'amis. Lui aussi a remarqué un groupe de jeunes hommes noirs. Mais sur la raison de leur présence, sa version à lui diverge.
Quand on est arrivé, c'était bon enfant, quoi. C'était, enfin, outre le fait que tout le monde picolait sévère, c'est resté bon enfant, quoi. Et voilà quoi. Nous, on est là, on passe notre soirée. Et en fait, là où j'étais, je voyais les voitures arriver. Et voilà, à ce moment-là, j'ai vu la voiture de ces jeunes arriver. Et ça m'a interpellé parce que dans le village, j'étais le seul black. Je me suis dit à moi-même, ah tiens, je serai pas tout seul. C'était des garçons, ils étaient 4-5.
C'est à peu près à ce moment-là que le DJ alerte sur le risque potentiel de piqûre dans la foule.
Ça faisait même pas 3-4 minutes qu'ils étaient là. Et je vois directement la sécurité avec des gars venir les encercler. Et leur dire directement, c'est vous qui avez piqué, c'est vous qui avez piqué. Donc ils ne comprenaient même pas, en fait, les autres parlaient de piqûre et eux, ils pensaient qu'on les accusait de vol. Donc ils répondent, on n'a rien piqué, on vient d'arriver. Et à ce moment-là, moi, je m'arrête et je dis, attention, les gamins, là, ils viennent d'arriver, c'est sûr. Donc ça ne peut pas être eux. Ensuite, moi, je pensais que c'était fini. Entre-temps, il y a un gamin qui fait un malaise, qui est tombé dans les pommes. Moi, je l'ai aperçu, il était un peu plus loin, il y avait son père à côté. Et bon, pour moi, c'est un gamin qui fait un coma éthylique, hein, vu comment ça picolait.
Le gamin dont parle Nelson, c'est Melvin, le fils de Gérard Bassetto.
Et puis d'un coup, j'entends la foule qui crie « C'est les Noirs, c'est les Noirs, c'est les Noirs !» Et je vois une quarantaine de personnes hein, qui sont parties en courant et qui crient « C'est les Noirs, c'est les Noirs !» Et du coup, je fonce, quoi. Je veux voir ce qui se passe. Comme il y en avait deux qui s'étaient éloignés, qui étaient retournés aux voitures pour récupérer des cigarettes ou je sais pas quoi, et bien ces deux-là, ils les ont chopés et, ils les ont lynchés, quoi.
Mediapart a récupéré une vidéo de la scène. Parmi les deux jeunes pris à partie, il y a Hans, 24 ans.
Hans est allongé sur le ventre. Le vigile avait le pied sur son dos et le gazait à bout portant avec la bombe lacrymogène. Pendant que l'autre vigile, un peu plus âgé, lui faisait les poches. Et d'autres qui mettaient des coups de pied. Donc moi, quand j'arrive, j'entends Hans qui dit « Ouais, faites ce que vous voulez, mais appelez juste ma mère. » Là, ça m'a fait vriller. Et là, j'y suis allé vraiment, quoi. J'ai poussé les vigiles, je me suis mis entre Hans et les autres. Et je me suis cru, je sais pas, moi, aux États-Unis, avec le Ku Klux Klan, je sais pas, en train de piétiner un pauvre Renoir, là, allongé au sol. J'ai dit, non, ça peut pas se passer comme ça, pas ici, pas devant moi, quoi. Alors on va se faire piétiner ensemble et... Les gens du village qui étaient harangués, c'est des mecs de 40 ans, il y avait même leur femme, il y avait, voilà quoi, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Ça a duré, une bonne 15-20 minutes. Ça s'est arrêté avec l'arrivée des gendarmes. Et moi, je leur montrais aux gendarmes. Il y avait lui, ils ont fait ça. Le gendarme m'a dit, de toute façon, nous, on peut rien faire là, on est que deux, il faut qu'on attende les autres. Mais après, quand il y a eu une autre équipe de gendarmes, ils ont embarqué personne. Hans, il venait de se faire lyncher, il était dans un sale état. Il était dans un vrai sale état, quoi. Voilà, il pissait le sang de partout. Au départ, je voulais déposer plainte aussi, hein, mais le gendarme m'a dit que c'était pas la peine, qu'il fallait juste faire un témoignage et que voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai plus eu de nouvelles, hein. Plus du tout de nouvelles.
Et vous n'êtes pas convoqué pour le procès, a priori?
Ben, j'ai plus eu de nouvelles. Voilà.
Le procès doit se tenir le 2 juin. Hans, le seul du petit groupe qui a porté plainte, ne veut pas répondre à mes questions d'ici là. Ce jour-là, trois inculpés, identifiés grâce à la vidéo, vont se retrouver à la barre, dont un conseiller municipal. Mais le parquet n'a pas retenu le racisme dans son chef d'inculpation.
Je pense que certains ont pu croire qu'il y avait eu des piqûres. Je pense que certains y ont cru, et puis il y en a d'autres qui avaient envie d'y croire, qui avaient envie de lyncher quelqu'un, de lyncher un noir. Parce que dès le départ, je leur dis clairement que les gamins n'ont rien fait. C'était un prétexte.
Depuis, cet événement d'une extrême violence embarrasse le village.
Il y a eu cette bagarre, donc voilà, bon, c'est vrai que... Fallait pas faire, mais bon voilà, après on protège.
Non, il faut qu'on parte.
Voilà, on protège ses enfants, ses ados, voilà, on protège. Ça me rend malade, ma pauvre.
Ah ben oui. Ça va me rendre malade. Eh bien, mais à ce compte-là, il faut pas parler.
On ferait des films là-dessus, je veux dire, c'est nous qu'on se fait agresser et c'est nous qu'on est accusé, quoi, en définitive.
Oui. Se fait agresser, on est accusé. Ouais.
Après, ils sont revenus le lendemain, cette bande, ils sont revenus le lendemain, ils voulaient tuer tout le monde, enfin, avec des voitures.
Ils avaient des machettes et tout. Pas, ouais. Ils sont venus le lendemain, les jeunes.
Ouais. Ils voulaient se faire justice.
Ouais, ils étaient 4 ou 5 dans la voiture, il y a des jeunes du village qui les ont vus. Ils ont appelé la gendarmerie et puis bon, ils se sont taillés, voilà.
Des jeunes assoiffés de vengeance, équipés de machettes. Une autre rumeur du village, forcément invérifiable. Parce que dans cette affaire, c'est bien la rumeur qui a envenimé les choses, piqûre ou non. La peur s'est alors cristallisée sur des jeunes étrangers au village. Et c'est la même chose dans la plupart des affaires. Les hommes interpellés dénotent souvent dans le paysage local. Ici des hommes noirs au milieu d'une foule blanche, ailleurs un SDF dans une rue de Versailles. Michael Hoge, chargé de projet épidémiologique à Eurotox, a étudié les affaires de piqûre en Belgique. Il a une hypothèse sur la question.
On est plutôt dans l'idée de penser que c'est une forme de un phénomène de peur sociale qui est favorisé par le contexte anxiogène post-Covid, en particulier les jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes qui sont concernés par ce phénomène. Et on sait que toute une série de troubles anxieux, notamment les troubles paniques, l'anxiété sociale, peut amener à ressentir des choses qui sont assez similaires finalement aux témoignages rapportés dans les cas de piqûres sauvages.
En clair, une épidémie de peur qui s'est répandue dans une foule fragilisée et qui a circulé de groupe en groupe, de région en région, favorisée par les médias.
Et ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé dans les années 60 avec la fameuse rumeur d'Orléans où des jeunes filles étaient supposément enlevées suite à l'éjection de drogue via des seringues hypodermiques dans des magasins d'essayage juifs et qu'elles étaient ensuite envoyées dans des réseaux de prostitution, supposément. Ce n'était qu'une rumeur, mais à l'époque, l'emballement médiatique autour du phénomène a favorisé aussi des témoignages et a vraiment amplifié les peurs.
Des épidémies de piqûres, il y en a eu aussi en 1922 et même 100 ans plus tôt, en 1819. À l'époque, 400 jeunes femmes racontent s'être fait piquer le soir dans la foule des grands boulevards avec un poinçon ou une aiguille. Auguste Marie Bizel, un tailleur de 35 ans, est arrêté dans la foulée. Il nie les faits mais est condamné à 5 années de prison. Pourtant, pendant qu'il est derrière les barreaux, les piqûres continuent. Le serial piqueur, s'il y en avait un, n'était pas celui-là.
C'était l'affaire des piqûres, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Yaël Mandelbaum et mixé par Marie Lepeintre. Merci à Lou, à Lolita, à Christelle Leroy, à Leïla Chaouchi, à Emmanuel Puzarsic, à Michael Hoge, à Gérard Bassetto, à Nelson, aux habitants de Verseille et à Alice Bonbois. Pour prolonger la réflexion, on lira, je vous le signale avec intérêt, les travaux de la sociologue, rumorologue, Véronique Campion-Vincent sur les légendes urbaines. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.